n'est pas du tout rentable puisque éloignée du centre-ville, déclare Jean-Baptiste Péjon. Idéalement, il faudrait la construire près de l'hôpital de Gonesse, selon Karine Pellegrin, seul endroit viable économiquement. Il y a un vrai enjeu de modèle de développement, développe Karine Pellegrin. Le triangle de Gonesse pourrait servir de ressource agricole pour la restauration collective du département, avec un fonctionnement en circuit court comme la logique de développement écologique le voudrait. Pourtant, certains pouvoirs publics s'obstinent à artificialiser les terres. Bon, on voit bien, pour conclure en tout cas l'émission, que on disait que l'objectif de 20% des repas bio dans les cantines n'étaient pas atteints. Et là, on voit finalement qu'on est en train de trouver des motifs de construire un groupe scolaire sous une ligne d'avion avec des nuisances importantes et puis surtout à 1500 mètres à pied de ce site. Et on voit bien que c'est une méthode pour essayer de grignoter petit à petit l'espace et finalement atteindre une rentabilité économique alors que le besoin n'est absolument pas présent, donc on est bien dans une vision qui marche absolument sur la tête. Et bien toutes les initiatives du collectif pour sauver les 110 hectares fertiles du triangle de Gonesse sont évidemment à soutenir. Voilà, l'émission touche à sa fin. On va se quitter et on se retrouve comme d'habitude le premier lundi du mois de novembre et cela à 18h. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz.
Contre le sommeil, on ne disposait que de quelques produits comme les amphétamines ou la caféine. Les amphétamines sont responsables d'effets secondaires qui ne permettent pas de les utiliser longtemps, troubles visuels, palpitations, anxiété et surtout des phénomènes de dépendance. Toute complication difficilement compatible avec les activités d'un militaire pendant un conflit. Les singes ont pu être maintenus éveillés pendant 4 jours et 4 nuits. Les nouveaux équipements militaires rendent possible la vision de nuit. Il n'y aurait donc pas de répit en cas de conflit, d'où l'intérêt de ce médicament qui maintient une vigilance quasi normale en l'absence de sommeil.
I have a statement from the President of the United States.
Sound Market のスタジオはすっかりマロネグラとそのファンたちに占領されてしまいました。
Vous ne pouvez pas imaginer, ils encerclent le Parlement et se préparent à l'attaque.
Le soleil est sous mon que...
D'ailleurs, disons, monsieur Vernon.
Oui. Tout le monde espère encore un miracle de dernière chance. Bonsoir. Vous posez votre question.
Bonsoir messieurs, je voudrais savoir si à 6h heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une guerre mondiale? Et si oui, est-ce que ce serait éventuellement la fin du monde, 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 la fin du monde.
Patrice Bertin, il est 2h moins 10, il est 3h moins 10, pardon, du matin.
Oui, notamment pour les auditeurs qui nous rejoindraient maintenant.
Minou, où est-ce qu'il est encore passé ce maudit chat?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et de la restauration de la Confédération nationale du travail, animée en direct sans retenue ni complaisance, chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois par ses militants sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire.
L'édito du lundi 2 octobre 2023 du Monde Merveilleux d'après. Le 4 septembre, nous avons loupé notre rentrée sur les ondes pour cause de maladie. Mais nous ne pouvions ignorer alors ce 4 septembre et ne pas évoquer une certaine idée de la République. C'est en effet le 4 septembre 1870 que la Troisième République est instaurée, proclamée, à la suite de la chute du Second Empire. Mais la République revêt plusieurs interprétations et conduira la population des grands centres urbains et des communes rurales à confronter leurs visions, tantôt sociales, tantôt fantasmées, et suivant des intérêts internationalistes ou chauvins. Ces deux tendances trouveront leurs interprétations dans le communalisme de 1871 et le jacobinisme bourgeois qui réprimera ces tentatives égalitaires et libertaires. Nous allons donc convoquer l'histoire pour comprendre notre actualité. Mais tout de suite, dans le monde merveilleux du travail, toujours acerbe, toujours haineux, toujours grincheux, nous écoutons la chronique du Mercator.
Une grève surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagor, hourra. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance, le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé?
Ah ouais, patron, fais-nous plaisir et ferme ta gueule.
Amis auditeurs du monde merveilleux du travail, vieux chiant, karatémique au loin, Manu là-haut quelque part, camarade technicienne engourdie aphrodite de la bicyclette rurale, bonsoir. Aujourd'hui, enfin, la dernière fois, c'était le 4 septembre. Le 4 septembre est un jour particulier, comme il vient de vous être dit. C'est d'abord la rentrée des classes pour des centaines de milliers d'écoliers dont les parents, quel que soit leur revenu, devront débourser, ont dû débourser, 11,3% de plus de bon argent pour équiper leur progéniture en stylo, en cahiers et autres effets de saison. Selon les sources, le coût moyen par élève s'élèverait à ce jour à 1200 euros. L'allocation de rentrée scolaire est d'un montant maximum de 600 euros, mais conditionnée au revenu du foyer. Donc elle peut rapidement diminuer et s'avérer symbolique. Aussi symbolique que le 4 septembre. Amis incultes et amnésiques du monde merveilleux du travail, ce 4 septembre, c'est aussi la date anniversaire, ça vous a été rappelé à l'antenne il y a quelques instants, de la proclamation de la République. Attention, avec un R majuscule, le 4 septembre 1870, les pères de la Troisième République, les Gambetta, Ferry et consorts, la proclamaient depuis le balcon de l'Hôtel de Ville de Paris. Encore du symbolique, d'autant qu'avec la guerre, d'autant que la guerre avec la Prusse va rapidement gâcher ce moment d'euphorie. C'est comme la rentrée scolaire, c'est un événement pour tous les écoliers, collégiens et lycéens. De nouveaux profs, retrouver les copains et les copines, des vêtements neufs, un beau cartable qui sera jeté sans ménagement dans les semaines, voire dans les jours qui ont suivi. La démystification arrive vite, là aussi, comme l'intérêt pour l'apprentissage et le savoir. Il y a Google qui en sait toujours plus que le prof, TikTok qui l'emporte sur la vie en chair et en os. L'école de la République, avec un R majuscule toujours, n'est plus tout à fait un champ idéologique tranquille aux mains des hussards noirs qui s'employent à transformer les élèves en bons citoyens, en bons soldats, en bons contribuables et en bons consommateurs. Souvenez-vous du temps où les écoliers se voyaient servir un verre de pinard au déjeuner. Il n'était pas rare que l'écolier emportât avec lui un quart de rouge, de bière ou de cidre selon les régions. Merci Pasteur, le vin chauffé en fait un aliment sain, y compris pour les enfants. Vive la science! Il faudra attendre août 1956 pour que Mendès France obtienne l'interdiction de l'alcool à l'école. Mais pour les moins de 14 ans seulement, hein. Faut pas pousser.
Oui, les profs, ils vont continuer.
Le même eut un mal fou à imposer le lait à la place du vin, du lait entier. Vous savez que la petite peau, qu'on n'aime pas. Enfin, que vous n'aimez pas, moi j'adore ça. Ah, les groupes de pression, ça aussi, c'est la République, avait toujours avec un grand R. Souvenez-vous des réclames qui vantaient le vin, qui rendaient les enfants forts, vigoureux, en meilleure santé. L'idéalisation de l'alcoolisme à l'école, par la République avec un grand R, prendra fin en 1981. Eh oui, nous étions jeunes. Par l'interdiction de l'alcool au lycée. Amis auditeurs, consommateurs du monde merveilleux du travail, ce 4 septembre, c'est aussi la rentrée des psychotropes. La vie est belle. Les psychotropes sont des produits culturels induits depuis la fin des années 60. Je pense, et alors là, les références vont tout de suite émerveiller mon acolyte, je pense à Blow Up de Michelangelo Antonioni et Easy Rider de Dennis Hopper. En voiture, Simone, un nouveau symbole bien utilisé est né. Plus récemment, la légalisation du cannabis pourrait faire rentrer du produit fiscal. N'hésitons pas. Il faut trouver 3 000 milliards d'euros pour rembourser la dette publique. Eh, faudrait pas que Nono la rondelle traîne un peu, hein, parce qu'il y a du pognon à faire. Il paraîtrait que la consommation de psychotropes chez les adolescents baisse néanmoins depuis 20 ans. Donc, il faut qu'ils se dépêchent. Bientôt, il n'y aura plus rien à taxer. Et puis, la production et l'écoulement du pinard connaissent aussi une crise. Seule l'économie des grands crus se porte à merveille. Mais elle est réalisée principalement à l'international avec des prix stratosphériques. Le pinard comme symbolique de la lutte des classes. Voilà un sujet pour le monde merveilleux du travail. Ce lundi 4 septembre, la République, toujours avec un R majuscule, se réveille après avoir bâillé et pété un coup en s'étirant mollement dans ses draps humides et sales. Comme en 1870, du verbiage bourgeois, la course aux places, la guerre parce que nous le valons bien en Afrique, où le fric n'est plus aussi chic, et en Ukraine, plus c'est long, moins c'est bon, la République narcissique caresse l'opinion publique. Mais la République des tabliers et des manchons a été remplacée, je dirais, grand remplacée, par la République des croque-tops et des abayas. Quel cheminement pour un régime qui a formaté les Français des provinces historiques au nom de l'égalité des droits et de la laïcité et qui ne sait plus comment endiguer un islam conquérant. Cette question est complexe, trop. Alors focalisons sur l'étoffe. Le 4 septembre, c'est aussi le nom d'une station de métro. Mais oui, dont la signification échappe au commun. J'ai fait une petite expérience et les résultats assez édifiants. Je propose de rebaptiser Eugène Varlin, ou mieux, André Léo. Le grand public des adeptes du barbecue, des grosses cylindrées, du « je me lève tôt, moi monsieur », du « je ne compte pas mes heures, car le sort du capital est entre mes mains », tous les lécheurs des fions des patrons ne seront pas affectés par ce changement. Prennent-ils le métro d'ailleurs ? Et puis ça me ferait plaisir, mais ça, tout le monde s'en moque. Amis mal recyclés du monde merveilleux du travail, le 4 septembre n'a rien donné de bon en 1870. Les bourgeoisies se sont accaparées des pouvoirs avec l'aide des ouvriers, des paysans, des commerçants et des fonctionnaires. Bref, la majorité abrutie de la population. Les gambettas et les tiers ont anéanti la commune sans se poser de questions. La rentrée des classes du 4 septembre 2023 n'a rien donné de bon, car nos enfants sont en proie à les marchands que l'incurie des professionnels bourgeois de la politique, qui font essentiellement carrière grâce à vous, continue à exploiter. La République a maintenu son personnel grâce à des réseaux dont l'école est un pilier. Difficile de vendre, l'école, l'enseignement supérieur, hein, l'élite. Difficile de vendre l'apprentissage pour les jeunes des aires de paupérisation quand nos propres enfants sont à l'école alsacienne et de rester crédibles, bien sûr. Au contraire, d'un point de vue éthique, les politiciens ne sont pas gênés. Leur mépris et leur sphère d'évolution sont dans une autre dimension. Amis révolutionnaires du monde merveilleux du travail, la République, avec un R petit, grand, on s'en fout, a rendu l'insurrection, la révolte, la manifestation spontanée illégale. Elle maintient la révolution dans un cadre bien délimité, habité par des parties spécialisées des concepts intellectuels. Pourquoi se révolter d'ailleurs, puisque la République vous dit qu'il n'y a pas mieux ? Au-delà, ce sont des gens, des marginaux, des gens, des marginaux, des éternels mécontents, des irraisonnables, voire de dangereux utopistes. Allez, à bientôt, et arrêtez d'acheter tout le temps n'importe quoi, n'importe comment.
La grande rue de la liberté. Monsieur l'agent, où donc est-elle ? Ce n'est pas une rue nouvelle. Depuis le temps que j'en entends parler. Cependant, si vous permettez, je crois savoir, et c'est logique, qu'elle commence à la République. La grande rue de la liberté. On m'a dit qu'elle est décorée. Le drapeau, ils m'ont dit encore. On ne peut pas croiser tricolore sans passer pour un demeuré. Dans la rue de la liberté, la grande rue de la liberté est immense et bien accueillante. On y danse et puis l'on y chante tout ce qu'il vous plaît de chanter. On peut sans se faire insulter s'y promener à gauche ou à droite. On n'a pas les idées étroites dans la rue de la liberté. Et même quand on n'a pas d'idée, on peut l'avouer sans méfiance. Pourquoi pas, puisqu'on est en France, on n'a pas de maître à penser dans la rue de la liberté, la grande rue de la liberté. Quand paraît-il on s'y balade, ne porte rien sur ses façades, ni slogan ni publicité. Jamais, jamais, vous n'y lirez des mots de haine ou de menace. On respecte la vie qui passe dans la rue de la liberté. C'est pourquoi je voudrais la trouver avant d'avoir les temples grises ou avant qu'on la rebaptise du nom d'un général d'armée. Grande rue de la liberté, la grande rue de la liberté, pour qu'elle reste magnifique, faut pas la mettre à sens unique, ni qu'on en fasse une rue Paris, et tous ceux que l'on peut souhaiter, étant donné que la terre est ronde, c'est qu'elle fasse le tour du monde, la grande rue de la liberté. La grande rue de la liberté, la grande rue de la liberté.
Vous êtes dans l'émission Le Monde Merveilleux du Travail et vous venez sur Radio Libertaire et nous venons d'entendre La Rue de la Liberté de Jean-Roger Caussimon.
Eh oui, Jean-Roger. Alors, est-ce que, puisque ce soir, on va parler de République, on va faire croire qu'on est le 4 septembre.
C'est tous les jours le 4 septembre.
Donc oui, on devait faire une émission le 4 septembre, ça tombait, enfin notre rentrée tombait le 4 septembre, et puis on avait trouvé original. Sympatoche de faire une émission sur la notion de République. Bon, on n'est plus le 4 septembre, on est le 2 octobre, mais de toute façon, comme on voulait faire un petit focus sur Eugène Verlin, qui peut-être à sa manière est un républicain, n'oublions pas qu'à ses dernières paroles, quand il a été fusillé, c'était « Vive la République, vive la Commune », et que Verlin est né un 5 octobre 1839, on n'est pas loin de fêter les 184 ans, enfin de commémorer les 184 ans de sa naissance. Donc on a trouvé pertinent de faire une émission sur la notion de République, vue par les uns et par les autres. Et donc Jean-Roger Caussimon nous rappelle que la rue de la Liberté commence à République. Mmh. Alors, est-ce que ça commence à République ? Est-ce qu'il faut une République pour être libre ?
Alors, vaste question. Je dirais que la République, telle, c'est un régime. Voilà, c'est un régime, celle dont on a parlé aussi bien dans l'édito que dans la chronique. C'est plutôt un régime. Et un régime, c'est pas garant de liberté, c'est garant ou alors garant juridiquement. Mais non. Après, si on veut parler de la chose publique, puisque c'est l'étymologie de la République, ça c'est autre chose. Mais ça, c'est peut-être l'affaire de tous, puisque c'est la chose publique. Donc c'est celle qui nous regarde les uns les autres. Mais quoi qu'on en fait, c'est notre question.
Et puis si le peuple, effectivement, ne met pas la main à patte à la chose publique, à la République, ouais. Et ben, ça donne une République d'aristocrates, de nantis. Alors nous, on a une République bourgeoise, actuellement. Enfin, on a toujours eu une République bourgeoise, en fait. Hein, on va dire ça depuis 1789-1791. Et il y a les républiques antiques qui reposaient sur une aristocratie. En tout cas, c'était pas des travailleurs. Voilà, les travailleurs, ils étaient dans la République, mais ils n'avaient pas le droit de citer.
Et encore.
Donc, la République, il faut s'accorder sur ce qu'est une République.
Encore, en Antiquité. Alors, la République, c'est 1792. Bon, c'est rien. Dans les républiques antiques, c'était ni plus ni moins en fait que des républiques avec une élite qui commandait à l'ensemble, parce que l'élite a appris, l'élite a lu, est allée à l'école ou était instruite par des maîtres, des bons maîtres, des philosophes dans l'Antiquité.
Ils savent ce qui est bon pour l'ensemble.
Et ben voilà. Donc, ils travaillent, mais ils travaillent pas comme nous. Mais comme aujourd'hui, ils travaillent pas comme nous. Ils sont dans l'organisation de notre travail. Ah, ça, c'est important, ça. Parce qu'on n'est pas foutu de s'organiser.
On sait pas trop non plus quand est-ce qu'on doit partir à la retraite, ni dans quel état. Donc, c'est bien que des républicains, d'une manière totalement démocratique, c'est-à-dire... Avec des
le vote
des articles qui sont créés spécifiquement pour l'expression de ces personnes personnelle de ces personnes et unilatérale, ben c'est bien qu'ils puissent nous dire combien de temps on doit travailler, combien de temps à quel âge on doit s'arrêter, et voilà. Et puis après, bon, il y a les patrons qui nous expliquent combien on doit être payé, mais bon.
Oui, c'est les mêmes, hein, très, très globalement. Ils appartiennent tous au même.
Tu veux dire que c'est la même classe sociale?
Oui, c'est la même classe sociale. Donc la République.
J'y crois pas, les républicains, c'est pas possible. Pas dans une démocratie comme la nôtre.
C'est terrible, cette nouvelle est affreuse. Est-ce qu'on va s'en remettre? Rien n'a changé, en fait, sous le soleil, depuis l'Antiquité. On a simplement, changé un peu le décor, hein.
On a supprimé l'esclavage au profit du salariat.
Ça, ouais.
Voilà. Donc avant, un maître te possédait ou t'achetait, je ne sais pas trop comment ça se passait, hein, je ne sais pas. Et je devais te racheter quand même. Et puis tu travaillais, et puis tu mourais, et puis voilà, on te foutait à la fosse commune, je ne sais où, et puis... Mais maintenant, hop, on nous reverse quoi, à peu près 10% de ce qu'on produit, et avec ça, il faut qu'on se loge, qu'on s'habille, qu'on se lave, qu'on mange,
tout en étant,
qu'on aille bosser.
Bah oui, tout en étant
vélo électrique.
Absolument, avec batterie amovible, c'est plus prudent. Et tout en étant pas maître du tout du coût, ni du logement, ni du transport, ni de rien. On n'est pas maître du coup, donc on a...
On subit.
Oui, voilà, c'est une... Et l'idée, en fait, toute simple, en tout cas, qui nous au syndicat, dans le syndicat du commerce. Qui nous avise, c'est à partir du moment où c'est nous qui produisons, qui travaillons, c'est nous qui décidons de comment on travaille, ce qu'on veut faire, et comment on veut le faire, avec qui. Et ça, c'est... Alors, c'est ce que je disais...
Et combien de temps ?
Et puis surtout, est-ce qu'on peut travailler? Alors, le temps, il est différent pour chaque individu. Donc, c'est pas la République qui décide. Parce que c'est pareil, c'est une je pense que c'est un mot qui est galvaudé, qui a plus de sens, quoi. On te le jette au visage quand tu contestes. Alors, quand tu contestes, on dit que t'es un utopiste ou un anarchiste, quelle horreur.
Ou un
anti-républicain.
Facho.
Ouais.
Complotiste.
Complotiste.
Ah, d'accord.
Et, et nous, n'oublions pas que... Alors nous, on l'a vécu, hein, souviens-toi qu'il fallait faire la preuve que nous étions un syndicat républicain qui respections les valeurs républicaines. Ça, c'est terrible. En fait, alors, sur le coup, j'ai pas réalisé. Si tu veux, il m'a fallu quand même plusieurs années pour réaliser que, en fait, c'est on est vraiment méprisé, quoi.
Alors, faut expliquer aux auditeurs. Si Eric nous dit ça, c'est parce qu'en 2008, sous la présidence républicaine de Sarkozy, du président Sarkozy, et vous mettez la main sur le cœur, si vous voulez, effectivement, il y a eu on a continué, mais là, on a accéléré la refonte du Code du travail et notamment les critères de représentativité des syndicats, dont un des critères était le respect des valeurs républicaines. Voilà. Donc, c'est tombé en 2008 et en 2009, quel est le premier syndicat de France à se faire attaquer sur les valeurs républicaines? Eh bien, c'est le nôtre. Ça, j'en suis assez fier.
C'est vrai. D'autant plus que ça a constitué une jurisprudence.
Non, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de décision.
Pas eu de décision.
De prise. C'était trop tendancieux, puisque du coup, si effectivement être un anarcho-syndicaliste, syndicaliste révolutionnaire, prônant l'abolition de l'État, c'est un peu comme ça que ça a été pris. Hein. Donc, on était anti-républicain, et si c'était... Ah si, effectivement, il y a beaucoup de groupes politiques aussi qui en auraient subi les conséquences. Alors, quand je dis groupes politiques, c'est aussi bien les anarches, peut-être des groupes trotskistes ou je ne sais pas, enfin, tout, tu vois. Donc, ça pouvait mener loin, en fait. Mais alors, ça n'a pas fait jurisprudence, parce que donc il n'y a pas eu de décision prise au niveau de la Cour de cassation. Et c'est comme ça qu'on a eu un autre syndicat de la CNT dans la foulée, s'est fait attaquer. C'est le SIPMCS, le syndicat des médias, de la culture spectacle, qui se sont fait aussi attaquer. Donc, du coup, ils avaient pu reprendre les éléments, s'ils les ont eus, de la contradiction de syndicat du commerce. Bon, oui, voilà.
D'accord, mais j'avais oublié que je pensais qu'on était allé jusqu'à la...
Mais on est allé jusqu'en cassation.
Oui, jusqu'en cassation. Que ça,
enfin,
ça avait fait créé une jurisprudence, donc j'ai peut-être mis des fausses que j'ai gardées. Bon, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est assez... en fait, c'est une arme de destruction sociale et politique et sociale, hein, le respect des valeurs républicaines, parce que c'est indéfinissable dans la réalité. C'est indéfinissable. Liberté, ou alors liberté, égalité,
choucroute,
couscous, cassoulet. Quelles sont-elles? Alors, y a une liste, c'est soit une liste à la Prévert, hein, mais qu'on peut y mettre tout dedans, ou alors effectivement, basé sur, la devise de la République, je ne sais même pas si elle a un caractère officiel ou j'en sais rien, qu'importe d'ailleurs. Mais c'est pas ce qui fait, la République. Mais c'est ce qui fait la République avec un grand R. Hein. Mais c'est pas ce qui fait la République, le régime. Quoi. Mais c'est pas ce qui fait la République, la volonté d'être ensemble dans un projet collectif.
Bah, de toute façon, s'il y a eu 5 républiques successives, c'est pas seulement parce qu'il y a eu des interruptions, parce qu'il y a eu une restauration, un empire. L'État français en 40, hein. Je ne fais pas le détail, mais enfin, ceux qui suivent un peu l'histoire auront compris ce qui s'est passé. Alors, entre la 3e et la 4e, il n'y a pas eu de. Bon, on a changé. Non. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça n'a pas forcément été. Alors, c'est resté une république, mais les institutions ont quand même changé à l'intérieur. Mmh. On est passé de. Avant, on est passé par la troisième, c'était très parlementariste. Et puis, un petit peu moins aujourd'hui. On le voit, on l'a vu avec justement la dernière constitution de la Ve République qui permet justement, entre autres, le 49.3, mais il y a d'autres articles qui permettent de passer outre les décisions parlementaires. Donc. Est-ce qu'on ne revient pas justement à une république antique?
Oui, pourquoi.
Alors, les élites sont restées, mais les décisions.
Le problème, c'est que cette république soit parlementaire, qu'elle soit présidentielle, surtout présidentielle aujourd'hui, en fait, ça ne change rien. Ce qu'on voit, le spectacle politicien. Auquel on assiste depuis toutes ces années, toutes ces décennies, c'est ni plus ni moins que la captation du pouvoir par des groupes qui affinitaires, des groupes d'intérêt. Et pas du tout. Enfin, quand on voit les députés dénoncer la dérive présidentialiste du régime, moi, ça me fait sourire. C'est parce qu'on vient leur piquer leur part de gâteau, leur part de pouvoir qu'ils ont sur le corps électoral, pas plus, hein, et puis sur sur les administrés, parce qu'ils votent des lois complètement ineptes, hein, ça arrive plus qu'à leur tour, ils légifèrent toujours parce qu'ils savent mieux que le peuple ce qui est bon pour le peuple. Et donc, il faut du consensus dans la décision d'exploiter le peuple. Et là, il n'y a plus. Donc, ils se battent, en fait, pour le pouvoir entre eux.
Oui, parce qu'ils l'ont accepté, hein, la constitution de la Ve République, qui permet justement ce passage de loi par les 49.3. Il y en a un autre, je ne sais plus encore, mais. Donc. Ils l'ont accepté, sauf que Macron, il l'applique. Il l'applique telle qu'elle existe dans la Constitution. Donc, ils auraient dû y réfléchir, au préalable, effectivement, à ce qu'il y avait dans la Constitution, et puis le dénoncer. Non, ils se sont bien accommodés, tant que les partis, à l'époque, et que les présidents prenaient en compte un petit peu les manifestations de rue, le mécontentement qui venait de la rue. Voilà, ça posait de problème à personne. Donc, on se rend compte que, en fin de compte, cette constitution est quand même très autoritaire et elle n'est pas très démocratique, en fait. Alors, pas du tout.
Non, pas du tout.
Et donc, ça ne reflète pas une république, de toute façon.
Alors, on te répondra... Enfin,
c'est une république, mais voilà.
On te répondra que la république, elle est démocratique parce que les Alors, les différents corps, enfin une partie des différents corps, là, en fait, c'est faux aussi, parce que, regarde, les sénateurs, je ne sais même pas à quoi ça sert, ces trucs-là. Là, le cochon qui est au Sénat, là, qui. Faut les noyer. Il y a la scène pas loin, là, puis là, fait un geste un peu d'humanité, foutez-la à la baille, quoi. Le Sénat, c'est pas démocratique. Enfin, c'est des démocraties avec des outils qui ne donnent pas. Enfin, je veux dire, quand tu mets un bulletin pour élire quelqu'un sur un programme dont tu sais pertinemment qu'il ne respectera aucun des points, alors soit t'es maso, soit en fait tu votes par conformisme, par habitude culturelle, je ne sais pas. Parce que t'es bien dressé, que t'es un bon citoyen.
Alors, justement, effectivement, il y a une part d'endoctrinement hein, pour faire comprendre aux citoyens. Je suis pas un citoyen, moi, je vous le dis. Faire comprendre aux citoyens qu'ils ont une part de responsabilité dans la mise en place, dans le maintien de la République, mais la mise en place de la démocratie, blablabla. J'ai un trou d'un seul coup.
C'est une rime riche. Un casion.
Mais, alors, est-ce que c'est pas un peu, justement, fantasmer carrément l'idée de république? Je crois que la population, alors les citoyens, hein, ceux qui sont plus réceptifs, justement, à l'électoralisme, je crois qu'effectivement, ils acceptent l'idée de république, de démocratie, sans vraiment chercher à voir ce qu'il y a derrière, sans avoir plus d'explications. Nous, effectivement, quand on parle de la république actuelle en France, c'est une république bourgeoise. On dit république bourgeoise, on dit rarement république, c'est pas une république sociale. Et quand on parle de démocratie, c'est démocratie semi-représentative, c'est pas la démocratie directe. Mais visiblement, ceux qui sont acquis à l'idée de la République, de la Constitution, de la Ve République, ne se posent pas trop de questions, en fait. Ils prennent pour argent comptant, oui, c'est une République, on est en démocratie. Enfin, il y a de ça, hein. Il suffit d'écouter, alors, j'espère que vous, chers auditeurs, que vous écoutez Radio Libertaire couramment, mais que des fois, vous allez un petit peu sur les autres radios, et surtout quand il y a des élections qui se préparent, où on a envie d'aller rechercher les impressions sur le vote sur les retraites. Quand vous entendez dans les cadres des micro-trottoirs les personnes interrogées, elles ne se posent pas de questions sur la République, sur la démocratie. En fait, pour eux, je ne sais pas ce qu'ils s'imaginent, en fait. Mais il n'y a pas de. C'est démocratie, république, il n'y a pas d'autre alternative. C'est comme ça que je le ressens, hein, parce que j'entends. J'écoute d'autres radios, c'est quand même que de la connerie, tout le temps. Je ne sais pas, Bénédicte pourrait peut-être nous le dire, hein, quand on écoute la radio.
Après. Hein,
on fait des bons sur les chaises.
C'est un tri.
Je gâche le repas, même.
C'est un tri. Il y a un tri quand tu. Moi, je suis sûr que leurs micro-trottoirs, bah, quand ils. Ils font leur série, je sais pas, peut-être 10, 12, 20, voilà. Après, une fois qu'ils ont, ils écoutent les enregistrements et puis
ils sélectionnent
et ils ne prennent que ce qui va dans le sens du vent.
Oui. Ou dans le sens qu'ils veulent faire admettre, surtout.
Après, moi, j'y accorde pas trop d'importance parce que ce que je vois surtout, c'est cette. Ça traduit pour une partie, mais là je te rejoins, une partie de ces personnes interrogées, en tout cas, même s'ils ont épuré les autres, qui étaient plus nuancés ou plus sceptiques ou plus contestataires, effectivement, il y a une bonne partie de la population française qui accepte les institutions en disant, bah attendez, là, c'est super, on est en République, rendez-vous compte. Avant, c'était les monarchies et il y avait une personne qui avait le pouvoir et on était tous ses sujets. et déjà une espèce d'approximation dans la connaissance de la période. Et puis maintenant, on est en démocratie, on fait ce qu'on veut. Parce que j'entends des choses comme ça aussi. Bah non, t'es en démocratie. Et puis même, tu fais jamais ce que tu veux. Tu fais jamais ce que tu veux. Ce que tu veux, ce que ta volonté, mais ta volonté, elle est limitée. Ta volonté est limitée.
Tu sais, je crois que les gens ne font pas grand-chose, en fait. Ouais. Enfin, en tout cas, ça se traduit pas par de l'action. C'est pas l'acteur. Oui. Ils sont pas acteurs de leur vie, en fait. Ils entendent par on est libre, on fait ce qu'on veut. On est libre d'aller travailler pour un patron. On est libre d'aller cultiver son jardin ou de faire des petits trucs, de rentrer dans des associations. Voilà. Mais après, faut pas qu'ils sortent de la route qu'on leur trace, quoi. Ouais. Va dans les manifs, mon ami, tu vas voir un petit peu comment tu vas être traité. Surtout si t'es en cortège de tête.
Alors, la République, ça doit être une bonne transition excellente. La République est aussi aujourd'hui une République à dérive autoritaire, voire autoritariste. Et ça, c'est quelque chose. Il y a toujours eu hein, des périodes comme ça où la République sortait le bâton et s'en servait. On a des exemples au début du siècle avec les grandes grèves de Carmaux. En fin de siècle, Carmaux, début de siècle, Fourmis avec les manifestations, enfin, je veux dire, avec où on tue, c'est-à-dire que là, on tue de l'ouvrier. Il y a aussi il y a eu des grèves en 45-47 où les cheminots et puis les sidérurgistes comme ceux qui bossent dans les mines,
les mineurs,
on en prend plein la figure quand même. Donc à un moment donné, faut mater le prolétaire qui se. Et aujourd'hui, c'est devenu non seulement on mate le prolétaire qui est pas content, qui veut pas de la retraite à 64 ans, mais et qui veut pas crever la gueule ouverte parce que l'essence tout coûte cher, donc on va lui crever les yeux. Ouais, et là, c'est la violence.
On les tue plus, on les mutile.
On les mutile. Et ça.
On en tue quand même, mais, c'est pas dans les mêmes mesures.
On est dans le registre des gueules classées. C'est vraiment une guerre. Pour moi, c'est une guerre qui dit pas son nom. Donc personne j'ai pas entendu quelqu'un en parler comme ça, mais c'est vraiment une guerre sociale, quoi. Et on utilise la force sans limite, sans retenue, sans retenue morale. Donc cette République, si c'est cette République-là qui est la République, entendons bien. C'est pas une république morale non plus. Elle est autoritariste et elle est immorale. Donc là, on est loin des idéaux.
On va se faire une transition à Ahmed Titas. Voilà.
Vous êtes toujours sur la Radio Libertaire à l'écoute du monde merveilleux du travail et c'était le groupe Titas, Estado Violencia.
Ah, on était dans le thème, ah, commence à parler de la violence d'État qui crève des yeux, qui enlève des mains, qui mutile, qui éborgne. Voilà, au nom de tous les pays. Et ça c'était en 86, donc groupe brésilien.
Au nom de la République.
Et au nom de la République. Oui, oui.
Et la République, c'est aussi la République, comment dire, des... Bah, c'est la violence d'État, c'est la violence légale. On entend beaucoup ça je lis ça dans les journaux. Je regarde pas parce que c'est pas bon pour mon cœur de m'agacer à écouter des... Et j'ai de plus en plus de mal. Mais et je veux pas non plus. Je suis assez comme ça. Et c'est assez épouvantable. Donc je pense à Martine surtout qui est là à m'entendre vociférer. Donc je limite. Mais on parle beaucoup de violence d'État comme une comment on appelle ça? Ça donne...
Une légitimité.
Voilà, une légitimité à la flicaille. Mais pas que, hein. Regardez les compagnies dans le métro, la sécurité RATP, les compagnies de train.
La RATP, la SNCF.
Qui sont aujourd'hui des bodybuildés, des cérébrés... Oui, non, c'est la réalité. C'est la réalité, je suis désolé. Mais... Et le pire, c'est que la gente féminine est du même tonneau. On a vraiment l'impression d'avoir...
Les petits cow-boys,
ouais. Ouais, voilà. Et puis, je regarde, il y a plus d'intelligence dans le chat, dans le regard du chat, que dans le regard de ces gens. C'est dingo. Hein. Donc, on est vraiment on sent la brutalité, on sent la volonté toujours physiquement d'en découdre avec, et en fait leur présence n'est pas rassurante, parce que bon, j'en discute avec d'autres voyageurs, et parfois c'est même une agression de les voir sur les plateformes, enfin les quais des...
Je crois qu'ils ont une réelle volonté de domination.
Ouais.
En fait, hein, on sent le fait d'avoir le corps bodybuildé, comme tu dis, hein, c'est un petit peu comme le chat qui s'hérisse. Ouais. Ils ont besoin de montrer qu'ils t'as vu comme je suis costaud. Voilà, ils ont besoin de montrer leur du passage.
Il y a de l'animation. Radio Libertaire, c'est vivant.
Ils ont besoin de montrer leur présence, de justifier aussi leur emploi. Donc, sans faire de la sécurité, donc s'il ne se passe rien, ils vont interpeller, faire chier. Je ne sais pas. Bon, moi, je ne me fais pas emmerder par les.
Ah, mais moi non plus, parce que j'ai passé l'âge. Mais...
Alors, et après, oui, effectivement, moi, je suis plus vieux que la plupart des jeunes qui viennent de cités et qui peuvent être basanés d'origine africaine ou africaine ou. Je sais pas pour les Asiatiques, mais voilà, effectivement, je me fais pas emmerder. Moi, on voit que je suis un blanc hétéronormé.
Et puis, alors, c'est une violence et l'uniformisation aussi, puisque ils ont tous des uniformes. De loin, on pourrait dire que ce sont des policiers ou des gendarmes.
Oui, ils ont des fringues de les mêmes couleurs que les flics.
Exactement. Hein, ouais, exactement. C'est intentionnel, de toute façon.
Je pense, oui.
C'est un prolongement dans le public, dans le service public, dans la mission, dans les entreprises qui ont un service une mission de service public, je vais y arriver, d'imposer comme une extension de la police. Alors, on avait déjà la police municipale, qui était aussi redoutable de bouffonnerie, et elle est tout aussi dangereuse, d'ailleurs. Et aujourd'hui, on a ces corps intermédiaires, qui sont une espèce d'extension de la police nationale et de la gendarmerie. Voilà. Donc, on est vraiment dans une société qui... c'est celle de Foucault, soit surveiller et punir. Quoi. Surveiller et punir. On est en plein dedans, quoi. Et puis, qui n'hésite pas de toute façon à faire valoir sa légitimité au nom de la République, au nom de la démocratie, parce que faut les entendre, les flics, quand ils s'expriment, quoi, c'est bah non, moi c'est la violence légitime. Enfin, je parle dégradé, les autres, on les écoute pas, hein. Enfin, on les interroge pas. Mais et c'est eux qui répondent aux entretiens dans les journaux. Souvent, ils sont, en plus, ils me font rigoler parce qu'ils sont syndiqués chez Alliance, parce qu'on. Ou chez SG, je sais pas quoi, FO, police, trop de balles. Donc des gens bien sûr, parce que c'est des syndicalistes, hein, des vrais.
Ah oui, c'est des vrais.
Des vrais syndicalistes.
C'est pas des chevelus qui courent à droite à gauche avec des drapeaux, hein,
non,
s'il te plaît.
Non.
Il faut un travail sérieux, respectable.
Respectable. Et donc ils sont, oui, on est dans la... Dans la, un autre camarade qui passe et qui me salue, que je salue, toute la vie continue, et qui représente l'État, parce que tout ça en fait c'est l'État, police, gendarmerie, même mais tous ces autres corps dont on a parlé là, c'est une extension de l'État à moindre frais pour l'État, mais aux frais du contribuable quand même. Bah oui. On nous impose en fait une violence, on nous impose un encadrement, et puis l'État est violent parce que il est violent parce qu'il souhaite aussi, on voit dans la campagne du SNU qui marche pas très bien, hein, tant mieux d'ailleurs, mais ils sont agressifs quand même, hein, agressifs. Hein,
justement, puisque tu parles de corps d'armée. Et qu'on voulait faire un focus un petit peu sur Varlin. Alors Varlin, il est connu parce que c'est un martyr de la commune. Et justement, ces corps armés, je rappelle quand même que depuis les attentats terroristes de 2013, semble-t-il, on a réactivé une garde nationale. Parce que justement, pendant la commune, il y avait les gardes nationaux. Et cette garde nationale d'aujourd'hui, elle est composée, enfin en 2017, j'ai vu ça sur Wikipédia, je crois, était quand même composée encore de 77 000 personnes.
Ah.
C'est pas mal, hein?
Oui.
Des chômeurs, des anciens militaires.
La garde nationale.
Ouais.
Je crois que c'était.
Ils sont peut-être 77 000 personnes, et dont il y a 2 000 personnes qui sont en activité.
Dans la garde.
Ouais.
Ça, j'ignorais.
Eh ben oui. Donc il y a ces gens-là qui s'ajoutent aussi. Donc on est dans une société de plus en plus policée.
Ouais.
Alors, ben justement, on peut faire la transition peut-être avec la commune. Parce que la commune de Paris de 1871, alors il n'y a pas eu que la commune, hein, il n'y a pas eu qu'à Paris, mais ça a été la plus longue. Et notamment, elle a été, à mon sens, rendu possible aussi parce qu'il y avait des gardes nationaux, donc des personnes armées, en fait. Alors, armées pour la défense de Paris, puisque ça doit répondre, enfin, ça répondait à l'époque un petit peu à cet objectif, hein, de défendre le Paris, puisque depuis 1870, il y a eu la guerre contre les Prussiens. Et la guerre ne s'est pas arrêtée avec la chute de l'Empire. En tout cas, l'occupation prussienne ne s'est pas arrêtée. Donc les Parisiens, armés, ont défendu la ville. Mais alors, les gardes nationaux, c'est, pour l'auditeur, c'est quelque chose qui s'est maintenu de la Révolution française. Jusque 1872, je crois que ça a été dissous en juillet 1872, quelque chose comme ça. Ah, voilà. Mais bon, c'était pour dire qu'il y a eu. Alors, ça a changé de forme, hein, en fonction qu'on est passé sous la monarchie, qu'on est revenu à une monarchie, à l'Empire. Effectivement, bah, les comment. Les empereurs, les rois ont essayé de limiter quand même
le pouvoir,
sans chercher à l'éliminer. des choses qui sera faites avec après la répression, après la semaine sanglante et la répression de la Commune de Paris.
Bah oui, parce que ça veut dire des fusils, des cartouches disséminées chez les particuliers. Parce qu'ils devaient s'équiper, entretenir leur équipement pour faire la revue. Pour...
Et puis surtout donc, quand ils se retournent contre leurs officiers.
Bah oui. Et quand le chien mord son maître.
C'est ça qui a été. qui leur a fait mal, je pense. Ouais. Alors moi, je ne suis pas pour le SNU, mais je ne suis pas contre la possession d'armes. On ne fait pas une révolution avec des petites fleurs, hein.
Bah après,
bon, c'est mon point de vue, c'est mon point de vue. C'est pas la vie du syndicat, c'est mon point de vue à moi. Mais
Les choses ont quand même beaucoup changé. La commune. Avant la commune, effectivement, ce que tu as dit, c'est que avec la bataille, la défaite de Sedan, le 2 septembre, normalement, c'était fini. On aurait dû signer. Alors, bien sûr, on ne refait pas l'histoire. Mais ça prouve que c'est les républicains de l'époque, les Gambetta et consorts, c'était des va-t-en-guerre. Mais les mecs, ils se tiraient en ballon. C'est pas eux qui prenaient des pruneaux dans la tronche et qui se faisaient en baïonnetté par les Prussiens et les Uhlans. Non, ça a été une grosse erreur. Ça a mis la France à feu et à sang, ça a endetté les Français, ça a mis le pays, des pays, des gens qui n'avaient pas de raison de participer à une guerre qui n'était pas la leur, d'abord. Et puis, il aurait fallu stopper tout ça. Les républicains ont mal joué cette espèce de merde, de sous-merde de républicains de l'époque. Et c'était peut-être l'occasion... Mais c'était peut-être pas assez mûr, effectivement. Mais quoique, il y avait déjà des communes à l'automne 1870. Des communes insurrectionnelles qui sont... Bonjour. Des communes insurrectionnelles qui sont... qui s'organisaient. Et qui se sont arrêtées, je pense notamment à Narbonne. La commune, elle s'est arrêtée au moment où la Commune de Paris prenait son essor. Donc, en fait, il y avait déjà, ailleurs qu'à Paris, un esprit communaliste. Et c'était peut-être là où il fallait arrêter tous ces va-t-en-guerre qui ensuite s'entendaient assez bien, vont bien s'entendre avec Thiers et tous ces trous de cul de bourgeois. On va les retrouver, on va les retrouver au pouvoir 10 ans après. Alors, donc, en fait, c'est... Voilà. Et... Moi, je dis que c'est une république. C'est déjà dès 1870, ce qu'on disait dans l'édito et puis dans la chronique, c'est que dès le 4 septembre, c'est une date maudite. Enfin, je veux dire.
Il y a deux idées de la république.
Ouais.
Il y a la république bourgeoise.
La république sociale.
Et la République sociale, qui va s'exprimer dans le communalisme 1871. Alors, je dis 1871, mais effectivement, Eric a rappelé qu'en 1870, il y a déjà eu des tentatives de mise en place de communes. Alors, justement, tiens, on peut évoquer Varlin, parce que s'il y a eu des tentatives de mise en place de communes, c'est aussi parce qu'il y a eu... l'international qui s'est créé, qui a été à laquelle adhérait Varlin et qu'il a été, je pense, un propagandeur
gandhiste
assez éloquent qui a fait le tour justement des grands centres grandes villes et puis des grands centres industriels. Et d'ailleurs, effectivement, on retrouvera dans les communes qui vont se mettre en place, partout où il est passé, alors je ne dis pas que c'est grâce à lui, mais partout où il y a eu de la propagande internationaliste, comme le Creusot ou à Marseille, c'est des villes qui ont eu leur commune, Lyon aussi, plus ou moins longue, souvent très courte.
Ouais.
Mais il y a eu quand même, alors il y avait quand même à cette époque, en 1870, il y avait 100 000 adhérents à l'international quand même. Ce qui n'est pas négligeable. À une époque où il n'y a pas de syndicats.
On les a peut-être pas aujourd'hui. Hein.
Pas dans le syndicat du commerce, en tout cas, la CNT. Mais bon, voilà, c'est, y a eu un travail de fait, et effectivement, deux notions de république s'opposent.
Oui.
La république bourgeoise qui maintient la propriété privée et les intérêts d'une classe, et une république sociale qui veut l'abondance pour tout, pour tous et toutes, et enfin, en tout cas un confort de vie. Décente, en tout cas.
Ça reste encore aujourd'hui, malgré tout. Je pense qu'on en sent quand même les frémissements dans la République, le régime actuel. Et qu'il y a quand même... c'est mal formulé. Je ne parle pas d'organisations comme la CNT. Hein. Mais... c'est mal formé.
Les divers mouvements qui se créent, les gilets jaunes par exemple.
Exactement. C'est en ébullition. C'est pas bien conceptualisé. En fait, ça demande peut-être ça demande encore un peu de maturation. En fait, le feu couve sous la cendre. Hein, faut pas se leurrer. Je veux dire, c'est j'aime le croire, en tout cas, parce qu'il y a un véritable malaise dans cette société française, et la République, c'est un masque. C'est un mythe, pour moi c'est un mythe, c'est un masque aussi, qui cache des réalités antisociales. Il y a de temps en temps des prises de conscience, ou en tout cas des moments de lucidité. Enfin, les gilets jaunes, c'est un bon exemple. Et puis les retraites. Finalement, les retraites, c'était pas le. Ça a mobilisé du monde. Mmh. Ça a mobilisé des salariés. Ça a mobilisé ceux qui ne sont plus en activité. Ça a mobilisé des générations. Ça a mobilisé. Ça a permis d'échanger avec des personnes qui finalement se retrouvent sur cette idée qu'il faut partager parce qu'il faut vivre mieux ensemble. Et donc, il faut partager un peu les richesses. Alors, il y en a certains qui voudraient partager plus radicalement. Mais voilà, il y a un ferment. Il y a quand même un ferment.
Alors, peut-être ce qui manque. Alors,
c'est pour ça qu'ils ont envoyé la police et la répression très violente. C'est parce qu'il y a eu une peur de ce ferment.
Ah ben, certainement. C'est effectivement, s'ils n'avaient pas eu peur, ils n'auraient pas envoyé autant de monde et puis ils auraient résolu le problème d'une autre manière. On ne sait pas ce que ça va donner. Alors, c'est vrai que les gilets jaunes, les mouvements pour les retraites, ça s'est beaucoup organisé via les réseaux sociaux. Mais c'est pas, c'est plutôt une sorte de concertation pour se retrouver. C'est pas une organisation. Justement, si on fait le lien avec Eugène Varlin, on peut vraiment considérer que c'est un des premiers anarcho-syndicalistes avant la création du terme. Voilà, il est internationaliste, il a une conscience de classe. Il a bien compris qu'il faut s'organiser au sein des entreprises. Donc, à l'époque, c'est des sociétés ouvrières, mais en fait, des syndicats. Et c'est peut-être ce qui manque, justement, aux Gilets jaunes et puis au mouvement, mouvement de contestation des retraites. C'est de. Pourtant, il y a des syndicats. Bon, après, il faut voir ce que c'est.
Les syndicats, on n'arrête pas de taper dessus.
Ces sociétés ouvrières ou celles au sein desquelles pourraient se retrouver des travailleurs, des travailleuses qui auraient conscience qu'il y a effectivement une lutte de classe. Alors, ce qui fait défaut, alors à l'époque de Varlin, c'était de convaincre, de faire comprendre qu'il y avait une rivalité de classe, que les travailleurs étaient exploités. Aujourd'hui, la notion de classe, ça échappe quand même, j'ai l'impression, à beaucoup. Hein. Ils n'ont pas assez d'argent, ils ne sont pas assez écoutés, mais j'ai l'impression qu'ils font tous partie d'une même classe. En fait, ils s'estiment citoyens, Et du coup, c'est même plus les travailleurs, c'est citoyens. Puis travailleurs, c'est un gros mot. Ouvrier, c'est encore plus un gros mot.
Bon. C'est has-been. Donc, non, mais c'est tellement passéiste. Bah, tu vois, utilises le mot ouvrier aujourd'hui, on te regarde avec des yeux, mais d'où il sort celui-là, quoi. Travailleur, on dit, bon, c'est quoi, c'est Arlette.
Enfin, et puis exploiter, vois, effectivement, c'est. Oui. Exploiter, c'est des termes qui ont été complètement évacués. Alors, sauf dans les milieux militants, évidemment. Mais de manière générale, dans la société civile, il y a des termes qui sont effectivement considérés obsolètes et qu'on n'emploie plus. Mais pourtant, qui sont porteurs d'idées et d'idées qui ne sont pas positives pour ceux qui le subissent. Et il faudrait se les réapproprier, c'est bon. Et comprendre, peut-être qu'on arriverait à s'organiser autrement. Alors, c'est vrai que les syndicats étaient quand même pas mal désavoués. Donc, ça va être difficile de.
Bah, ils se sont discrédités. Enfin, la plupart des centrales sont des centrales de. C'est des centrales d'achat, hein, si je puis dire. C'est-à-dire que on va à la soupe et puis on est dans la négo la plus consensuelle, il y a plus on évite le conflit, on n'évite pas le conflit en essayant de résoudre un conflit, c'est pas possible. Je veux dire, pour moi c'est une contradiction majeure. Et comment peut-on faire confiance à des syndicats comme ceux que nous connaissons? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, en fait, il reste que nous, globalement.
Précisément, dirais-je même. Et la CNT Vignol. Oui, pas croire qu'il y en ait d'autres.
Non.
Ouais.
Alors, ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est ça, c'est la citoyenneté a absorbé une espèce de. Notion de classe.
Ouais.
Bah oui.
Et de travailleurs, d'exploiter, tout ce qui va avec, quoi.
Ouais, tout ce qui va avec, bien sûr. On a égalité, puisqu'on est tous citoyens.
Bah oui. Bah, liberté, égalité, travail. Non, c'est fraternité. C'est pas dans le bon ordre, mais.
Donc voilà, bien sûr que ça gomme tout. Et ce qu'il n'y avait pas encore. Varlin, puisque Varlin, il a fait ses classes et son expérience sous le Second Empire. Donc là, c'était pas égalité, liberté, sodomie. Hein, c'était autre chose, quoi. Donc il a eu. D'abord, c'était un gros bosseur. Hein, c'est pas un feignant. C'est un gros bosseur. C'était un ouvrier intelligent aussi, faut le dire.
Mais il n'a pas eu peur d'apprendre, il n'a pas eu peur de, une fois qu'il a appris, de transmettre.
Il s'est mis en danger, y compris dans le milieu ouvrier où il n'était pas toujours très compris.
Visiblement ça passait bien quand même. Il avait quand même un discours qui devait quand même. Vraiment une sacrée aura quand même. Ouais. Bon, il a fait un petit peu de prison. Plusieurs reprises, comme tout bon syndicaliste qui se respecte. Je suis désolé, moi j'en suis pas un, visiblement. Mais
ta carrière n'est pas terminée.
Il est quand même un peu sur le déclin. Là. Pardon. Et je tousse, mais plus pour longtemps. Je m'étouffe.
Ouais, donc c'est.
Oui, c'est quand même quelqu'un de très intéressant dont il faudrait sans doute. S'inspirer un petit peu plus. Hein, bah d'ailleurs, tous les militants qui ont écrit ou non, d'ailleurs, mais enfin, qui ont participé au mouvement social ouvrier, il serait peut-être temps de les réhabiliter. Alors, ça passera pas par la République bourgeoise. Ça, c'est clair. Ouais. Donc, chers auditeurs, préparez-vous à faire la révolution sociale pour qu'on parle de tous ces gens. Quand on vous parle à la radio et qu'on n'entend pas sur les autres antennes. D'ailleurs, les autres antennes seront interdites. Il n'y aura plus que Radio Libertaire diffusée partout.
Ça, c'est
une principe. Radio. Vous en foutez de la démocratie. ce qui pose aussi le problème, tiens, dans la démocratie, dans notre belle République actuelle, c'est justement qu'il y a une... Alors les politiciens effectivement sont en fait ils n'ont pas de programme. Tout à l'heure tu parlais de programme pour lequel qu'ils n'appliquent pas une fois qu'ils sont élus, mais je trouve qu'ils n'ont même pas de programme. De toute façon ils sont tous quand même très libéraux. Mmh. Alors, il y en a qui sont ultra libéraux. Et surtout en fait je crois que le point de fixation de leur pas de leur mésentente mais de ce qui les oppose, enfin, ce qui unit certains partis et ce qui les sépare, c'est le Rassemblement National. Mmh. Avec cette idée de c'est l'extrême droite, et l'extrême droite, c'est lié, on va dire, au fascisme, au régime de Vichy, on le prend comme on veut, je faisais un petit peu de tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est au nom de la liberté d'expression, on laisse justement s'exprimer. Bon, a priori, ça ne me dérange pas qu'on laisse s'exprimer, mais enfin, que des partis dits d'extrême droite qui sont visiblement une menace contre laquelle Macron a été élu, parce qu'il a fait barrière.
Ah, oui.
On a vu ce que ça donne aujourd'hui. Enfin, il met en place le programme du Front National. C'est vrai qu'il met en place le programme du Front National, pas du Rassemblement National, du Front National. Avec la militarisation de la société.
Ouais.
Non, mais c'est quand même marrant que tous les élus, tous les partis politiques s'accordent à dire qu'effectivement, la menace, c'est le Rassemblement National, alors qu'en fait, ils participent comme eux au jeu démocratique qu'ils représentent. Et ils représentent la République. Il y a un truc qui ne va pas. Soit ils se foutent de notre gueule. Alors, il y a ça aussi.
Oui, pas mal. Ouais.
Soit ils sont très complaisants, ça les satisfait. Et eux-mêmes ont une idée de la République qui est quand même un peu étrange. Hein.
Et puis c'est un jeu pervers parce que
En tout cas, c'est pas incompatible. La République et puis l'extrême droite, c'est pas incompatible.
Mais comme l'extrême gauche, tout ça, c'est pas incompatible. Hein.
L'extrême gauche, ça me dérange moins. Je suis pas ni de droite ni de gauche, puisque je suis syndicaliste révolutionnaire, anarcho-syndicaliste.
Mais tous les partis se satisfont de la République, et la République, le régime républicain se satisfait de tous les partis qui veulent bien participer au cirque, au cirque électoraliste et aux joutes verbales, qui vont de toute façon à la buvette du Sénat, où on mange bien, on boit bien. Et tout le monde est à la soupe. Donc il y a on a tout dit. Alors moi ce que j'ai c'est que en fait c'est le fait de faire entrer des extrêmes gauchistes ou des extrêmes droitistes, pour reprendre tes termes, dans un hémicycle ou dans un jeu de force politique. Bon, au contraire, c'est géant, ça redonne du grain à moudre pour tout le monde. Ça, c'est une caisse de résonance. Ça amplifie le cirque républicain.
Oh, puis, non, mais de toute façon, je crois que ça satisfait tout le monde que le Rassemblement National soit le deuxième parti le plus puissant, quelque part, en termes électoraux. Hein, ça satisfait tout le monde, puisque comme ça, on sait qu'à chaque fois qu'il va être au deuxième tour, c'est celui qui n'est pas au Rassemblement National qui va l'emporter. Ouais. Donc on va avoir soit la droite, soit la droite libérale, soit la droite ultra-libérale.
Ouais.
Mais toujours avec le bâton.
Ouais. Ouais, ou alors la gauche libérale.
Il n'y a plus de gauche. Social-démocrate comme Hollande, mais même ça, je pense que c'est...
Social-libéral. C'est,
social, oui, mais il disait social-démocrate. Je suis plus socialiste, je suis social-démocrate. Comment il s'appelait en Allemagne là. Je me souviens plus. Je vois son physique de gros là, socialiste qui a réprimé les spartakistes. Un nom court. Bon, bref.
Hébert.
Non. Bon, c'est pas grave. Mais enfin, d'être social-démocrate, c'est pas pour ça que tu vas pas réprimer, tu vas pas tuer des gens. Donc, ça reste dans la continuité.
Oui, oui,
hein? Social-libéral, ultra-libéral, et libéral tout court. Voilà. Qu'un choix de économique.
Il y en a que façon qu'il n'y en a qu'un. Hein. C'est celui qui est dicté par l'international des patrons.
Oui.
Bah oui, le Davos, là, je sais pas quoi, et puis le CAC... CAC 40.
CAC 40 pour les Français.
40 pour... Mais non, mais attends...
Je suis bien d'accord.
Le reste... Et puis, c'est pareil, il y a aussi une inégalité qui dit pas son nom, puis qu'on t'ait... T'as plein de, d'artisans qui crèvent la dalle, qui arrivent à peine à joindre les deux bouts. Ça reste des patrons. Souvent, ils sont tout seuls dans leur, dans leur entreprise.
Dans leur boutique, ouais.
Électricien, plombier, machin. Et puis à côté, t'as le monde des patrons, où t'as des Bernard Arnault, t'as des Bolloré, où là, ça...
Ah ouais, ils n'ont jamais mis les mains dans le cambouis.
Non,
hein.
Mais
ou alors c'est parce qu'ils restaurent des vieilles bagnoles, parce que c'est des passionnés, mais...
Ils font restaurer.
Ouais, et encore.
Ouais, donc on est là aussi, mais c'est pareil, enfin, à un moment donné que ça décile tout ça. C'est que, on l'a vu au moment des retraites. Je sais pas, on en avait parlé à l'antenne de Radio Libertaire. Au moment des retraites, en Bretagne, il y a des patrons qui... des petits patrons qui
envoyaient leur
voilà qui payaient la journée leur, de salariés pour aller faire les grèves. Et il y en a certains qu'on en fait 10 ou 12, hein, pratiquement toutes. Hein. Et ils étaient au départ avec eux, et puis après, faut faire tourner la boîte, donc ils envoyaient la boîte représentée par, par un salarié. Donc il y a quand même une... il y a une partie du petit patronat qui...
C'est pas parce qu'on est artisan, ouais, qu'on participe au capital, mais on ne possède pas forcément le capital.
C'est ça, oui. Tu dépends des banques, de toute façon.
Oui.
Des crédits que tu as pris à la banque du coin pour t'acheter ton camion, ton deuxième camion, tes équipements électriques, tes fournitures. Si tu ne bosses pas, tu vends ta bagnole, ton chien, ta baraque, tout, quoi. Tu finis à poil.
Tu le bouffes, ton chien. Tu le bouffes.
Au RSA. Surtout que le RSA, en ce moment, c'est pas chaud. Hein.
Et il va falloir faire des heures. Il va falloir les justifier, oui. Ces 300-400 euros allez, par mois.
Il va falloir tapiner.
Bande de parasites. Hein. Alors que nous, les législateurs, on ne gagne que 6 000. Ça dépend. Ça dépend du poste qu'on.
Ouais.
Et puis ça dépend combien de postes on est occupé et combien on occupe.
Et ça puis, se cumule. Et puis non, tu fais trois mandats, c'est bon, t'es tranquille, quoi.
Ouais. Ah moi c'est. Sénateur. Alors déjà les sénateurs c'est des vieux souvent. Hein, donc ils ont déjà fait une belle carrière de feignant.
Ouais.
Mais en plus.
De parasites.
Ouais. Ils font un mandat de 6 ans et 80% de leur. Ils ont leur retraite au bout de 6 ans. Il faut le faire quand même.
Ouais.
C'est qu'ils aiment le pouvoir quand même. Hein, s'ils continuent...
Ou ils aiment la retraite.
Non, mais tu fais un mandat. T'as 80%.
Ouais.
Non, c'est 6 500. Hein,
c'est ça, ouais.
Moi, tu me donnes ça, moi. Je travaille 6 ans et puis terminé. Je fais jusqu'à la fin de ma vie, à 65 ans.
Tu te fais lire sénateur. Ah non.
Il faut avoir ses entrées quand même. Hein. Ils s'élisent entre eux, hein.
Ah ouais.
C'est pas des, faut avoir été un petit, faut d'avoir été des, y avoir été député ou préfet ou je ne sais pas quoi, enfin d'avoir des mandats quand même. On va pas mettre n'importe qui. Enfin, parce que t'as été délégué syndical dans une entreprise que t'as le droit de
participer.
Non, mais ça c'est des petits joueurs, c'est des bénévoles et tout. Ça va pas. Non, mais des gens qui ont gagné de l'argent. Oui. D'accord, je me fais flinguer. C'est ça que ça veut dire? Saleté.
Hein. C'était plutôt pour les sénateurs.
D'accord. Voilà. Je crois que c'était pour moi. Tu peux faire avoir une attaque cardiaque. C'est qu'à mon âge, il ne faut pas faire ça.
Et puis, tu fais pas le poids au Sénat. T'as vu.
Le poids, si, je le fais.
Non. Là, tu les as pas vus, en vrai.
Ouais, peut-être.
Ah ouais. Alors, on est sur du 5XL, 6XL pour certains. Hein. C'est.
Ouais, d'accord.
Hein, c'est du Louis XVIII au cube.
J'arrive encore à mettre du large.
Voilà, c'est vrai qu'on commence à se débarrasser de toute cette échangeance. Mais c'est pareil, hein, c'est pas une question qui se pose. Personne ne se dit, mais qui ces merdes, pourquoi est-ce qu'on les fout pas dehors, quoi? Va bosser à l'usine. Bon, il n'y en a plus des usines ou presque, mais va bosser, je sais pas, moi, cantonnier, un truc utile, quoi. Tiens, Ramin, à la rue, la contre-allée, là, Sylvette Noël, là, c'est un dépotoir. Tu mets 3-4 sénateurs avec une brouette, une pelle et un râteau, et puis vas-y, roule, quoi. Là, c'est utile, ça. Ça, c'est utile. Donc, vous voyez, les parasites, c'est pas où ils sont, pas là où on pense qu'ils sont. On leur apprendra un coup de bas. Eh bien, là aussi.
Savent-ils tenir une pelle? Oh ben. Enfin, bref. Bon.
Mais les parasites ne sont pas là où on croit qu'ils sont.
Et on dit qu'ils sont. Non. C'est pas.
Ah oui.
C'est. Si, oui. Mais c'est ceux qui. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'ils arrivent à faire croire à ceux qui veulent bien les entendre et qui ont mis en place ces parasites, que les parasites sont les fonctionnaires, enfin les fonctionnaires, tu vois, de l'éducation nationale, ou des chômeurs, des gens qui ont été privés d'emploi. D'ailleurs, c'est pas mal, d'ailleurs, cette idée de vouloir faire travailler les mecs au RSA, tu vois, un certain nombre d'heures, 20 heures, qui est pas loin des 35, hein, 20 heures, pour justifier leur salaire un revenu pourri. L'objectif, c'est de leur redonner confiance dans le travail. Alors qu'on les a exclus du travail, on va les remettre au boulot pour leur redonner confiance. Ça aussi, c'est un foutage de gueule. Et c'est marrant qu'il n'y ait pas un journaliste, il n'y a personne qui reprenne un truc comme ça.
C'est une rare perversion, je dis.
Ouais, c'est.
T'es exclu du boulot, du monde du travail, du monde de l'exploitation, et là, on te dit, mais attends, on va te redonner confiance. Tu avais peur du bâton, on va te faire aimer le bâton. Non, mais voilà, c'est.
La République n'est pas garante de tant de liberté, ni d'égalité, ni de fraternité que ça.
Non.
Hein,
et pourtant.
La devise française.
Ouais, et pourtant, au moment de se faire fusiller, il a quand même dit.
Vive la République.
Vive la République.
Mais pas la République. Des Gambetta.
Rétablissons.
Voilà. Et une république sociale. Mm. Ah, il n'a peut-être pas eu le temps de dire république sociale. Hein, parce que déjà qu'il avait l'œil qui pendait. Parce que vous savez que tout le monde sait comment a fini Varlin. Hein, il se repose sur un banc. Un curé en civil le reconnaît, le dénonce. On lui massacre la gueule à coups de crosse. Mm. Et il en prend tellement qu'il y a son œil sort de son orbite, quand même. Donc il se fait défoncer. Et fusillé. Il n'a pas eu le temps de dire grand chose. Est-ce qu'il lui restait des dents pour rien? Je ne sais pas. Ben, il a dit. Il n'a pas eu le temps de dire République sociale. Non, mais enfin bon, voilà. Il avait son idée de la République, qui est quand même beaucoup moins violente que celle de Thiers à l'époque,
qui n'était pas républicain, qui était une sale ordure bourgeoise.
Bah, ils s'y servent de l'image. Tous, hein, ils servent de l'image du républicain, mais en fait, ce sont des. Justement, comme on ne sait pas trop ce que c'est qu'une république, en fait. Enfin, si.
Thiers, il a léché le cul de tous les gouvernements.
Et c'est bien maintenu, lui. Hein.
Ouais.
Il y en a eu d'autres.
Ouais.
Il a fini en beauté, quand même. Ouais. Hein. Il a quand même massacré du monde, massacrer du monde.
Ouais. C'est. Ah non, c'est une pourriture. Je sais pas qu'on ait encore des boulevards Thiers ou des avenues Thiers ou des rues Thiers, je comprends pas.
Mais Macron ne t'attache pas trop à ces personnages, parce qu'effectivement, comme Eric disait, le feu couve sous la cendre, le jour où ça va cramer, on va les enlever. Déjà, on va la redémolir, la maison de Thiers.
Ouais.
Et son. Ces sépultures et ces trucs, et ces rues, là. Terminé, les lycées Thiers, des lycées aussi, son nom. J'en ai connu un. En province, bien ça, il y a des rues, effectivement. Et ben, hop, on va être Varlin à la place.
Ouais, vous avez trouvé autre chose, on s'en fout. Camarade, mon nom m'échappe, mais que j'avais noté il faut le redire, qui est moins connu que Varlin et qui est une femme.
Nathalie Lemel.
Oui, ça pourrait être, mais je ne l'avais pas choisi parce qu'on l'avait déjà évoqué ici. Et puis, comme je n'avais pas mes lunettes pour voir de près, je suis un peu perdu. Ben, je vais retrouver.
Oui, donc.
Ah non, c'est un André Léo. Donc, c'est une femme qui avait un. Qui portait un pseudo.
En fait, masculin. C'est André et Léo, c'est le nom de ses enfants.
Ouais.
Donc c'est, oui, c'est son pseudo, c'est le nom de ses deux fils.
Voilà. Voilà. Donc c'était une femme. C'est une écrivain. Dame. C'est une dame.
Voilà, une lame d'oc, comme on dit chez nous.
Ouais. Donc voilà, un autre personnage qui mériterait d'avoir une. Pour le coup, et expliquer pourquoi on lui donne une plaque, une rue, un lycée surtout. Parce qu'elle a écrit.
Donc du coup, on n'a pas trop fait le focus sur Varlin.
Bah si, on n'a pas arrêté.
Je disais, premier, on va dire, anarcho-syndicaliste, syndicaliste révolutionnaire. Effectivement, la révolution était très présente à l'esprit de Varlin. L'internationalisme aussi, puisque il avait bien conscience que faire des grèves, c'est bien, parce que quand elle réussit, ça améliore ton quotidien, mais ça ne résout pas tout, puisque de toute façon, tu restes exploité. Donc effectivement, pousser au-delà, enfin, en tout cas, avoir des relations, effectivement, d'où son internationalisme, avec les travailleurs des autres pays pour pouvoir s'organiser, échanger la société, qui n'est pas en fait que dans un seul pays, mais dans tous les pays. Effectivement, alors on est peut-être. La grève générale n'est peut-être pas évoquée, peut-être à cette époque, des années 1860 jusqu'à 70. Mais effectivement, c'est l'idée qui ressort quand même. Une grève générale où, effectivement, le travailleur va prendre conscience de son statut d'exploité et.
Il va proposer autre chose.
Autre chose sans des patrons, sans les intermédiaires qui lui bouffent la laine, qui tondent la laine sur le dos. Donc, quelqu'un très bien à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas, à redécouvrir pour ceux qui le connaissent déjà un petit peu. C'est quelqu'un que j'apprécie. Je crois que c'est un des militants de la commune les plus appréciés en fait, de la CNT, je pense. Non ? Chers auditeurs, auditrices, à venir aux permanences de la CNT le lundi, et normalement, quand vous rentrez, vous avez une déclaration comme ça d'Eugène Varlin sur le mur de droite. Voilà, je ne vais pas vous la lire parce que c'est très connu et je ne l'ai pas sous les yeux, donc je ne vais pas dire de conneries. Mais oui. C'est un des premiers syndicalistes. Enfin, des premiers. Syndicalistes révolutionnaires, on dirait. Mais de toute façon, la commune a inspiré beaucoup les syndicalistes révolutionnaires. Et les révolutionnaires, de manière générale.
Disons que ça a changé. Oui, ça, c'est la mise en œuvre concrète d'idées nouvelles, qui allaient dans le sens de le partage des richesses, la prise de décision collective. C'était une expérience alors qui a tourné court du fait de l'hostilité. Et puis s'il y a une hostilité des bourgeois et dont Varlin était la victime, c'est que finalement c'était une crainte. C'est que c'était une menace. Il faut voir aussi ça comme ça. C'est que l'organisation de la commune, c'était un modèle. C'est une idée comme ça.
Pas en faveur de la bourgeoisie, hein.
Oui, mais donc c'était une menace. C'était une menace pour l'ordre établi, pour leurs intérêts.
Pour tous les parasites.
Ouais, pour tous les parasites. Alors,
aussi bien parlementaires que bourgeois.
Ouais. Donc, à partir du moment où ça fait. C'est un mouvement et c'est une réalité, parce que pendant 3 mois, ça s'est quand même construit. C'est qu'il y avait quelque chose de. Il y avait, au-delà de l'utopie, il y avait une espérance. Une espérance, et puis. Et donc une menace pour la République de Thiers, qui ne disait pas son nom.
Oui.
En fait, on est toujours dans la République de Thiers. Hein. Encore aujourd'hui. Hein.
Oui.
Oui, ça n'a pas beaucoup,
ouais.
pas beaucoup évolué, ouais, en fait. Ouais,
c'est... Toujours le, ouais.
Donc, bah, voilà, chers auditeurs, chers auditrices, faites de la propagande. Je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup. Mmh. Je sens ça de temps en temps, ça choque. Mais... Oui. Faites de la propagande. Ouais. Anarcho-syndicaliste, en tout cas. Et pour qu'on change les choses rapidement, parce que... Hein, vous n'allez pas me faire laisser travailler jusqu'à 67 ans, merde.
Ça, c'est dégueulasse.
Hein, c'est pas humain. Parce que j'y arrive quand même, mais je vais finir en beauté, pas sur une barricade, mais...
Non, mais c'est... Voilà, là aussi, c'est la condition ouvrière et... Là, mérite qu'on se... Qu'on s'organise pour que ça change.
Alors, on vient d'entendre le chat miauler.
Oui, miaou.
Donc, bah, je sais pas, tu veux faire une conclusion sur la République ? Oui, effectivement, République, il faut spécifier, République bourgeoise, République sociale, des démocraties directes, démocraties semi-représentatives, ou ouais. de délégation, je ouais. sais pas. Bah, nous, on a fait notre choix.
Ouais. La sociale, ça c'est bien, ça. Pas de République, mais la sociale. Bah, pour moi, ça sera la sociale.
Eh ben, on va terminer là-dessus. On va... faire quelques annonces. D'abord, vous nous retrouvez normalement le 16 octobre. Donc, vous retrouvez le Monde Mère du Travail sur Radio Libertaire 89.4 le lundi 16 octobre à 19h30. Mais vous aurez quand même avant ça, vous aurez le 10 octobre, normalement, l'Éduc 93 qui fait Radio Libertaria de mardi de 20h30 à 22h30. J'espère qu'ils vont le faire. Écoutez, hein. Et puis, bah, sinon, il y a le camarade, là, on est sûr qu'elle se fait l'émission, c'est Service Public, toujours sur Radio Libertaria, le quatrième mardi de 20h30 à 22h30, avec Bernard.
Oh, Bernard. Salut Bernard.
L'énergie. Oui, on le salue, on l'embrasse. Et puis, bon, bah, on se reverra d'ici là, mais il y a quand même l'émission micro-ondes, encore une émission de la CNT, là, qui est trimestrielle, c'est dimanche 29 octobre, 15h30, 17h. Retrouvez les copains du... l'Union départementale du 93, des syndicats du 94, pardon, qui font une émission. 15h30, 17h, le 29 octobre, dimanche. Je sais pas quoi faire, vous écoutez. Mmh. En général, elles sont bien faites, leurs émissions. Et justement, puisque j'ai terminé avec les syndicats du 94, je vais chausser mes lunettes.
Mmh.
Ça sera bien mieux. Voilà, pour une rehausse des salaires, des retraites. Les retraites à 60 ans. La négociation de CCN et tout un tas d'autres revendications nécessaires face à l'inflation et la dégradation des conditions de travail. Un débat va se tenir le samedi 7 octobre à partir de 15h à la Bourse du Travail de Choisy-le-Roi, 27 boulevard des Alliés, donc dans le 94. Un débat sur quel syndicalisme. Voilà. Donc samedi 7 octobre, c'est samedi prochain, à partir de 15h, 27 boulevard des Alliés à la Bourse de Travail de Choisy-le-Roi. Voilà. Donc il y a une expo, des livres, une table de presse. Je vous encourage à y aller. Il est 20h59. Ben, on se dit au revoir. On se retrouve normalement le 16 octobre. Donc je n'ai pas de thème encore. Je suis tout seul, il n'y aura pas d'émission.
Oui, voilà.
Vous avez tous, à un moment donné ou à un autre de votre
existence. On lance le générique de fin, on vous salue tous et toutes, et puis bah, à bientôt. J'espère que l'émission vous a interpellé en tout cas.
Oui, ciao. Bonne fin de soirée sur Radio Libertaire.
Ciao.
L'idéal libertaire. Car moi, je veux.
Que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
Tu vois. C'est écrit à la une, on se dispute déjà la lune, enfant de demain innocent.
vengo aquí, yo vengo aquí para cantar, para cantar la rumba de la rumba de mi adoración, mi adoración. Yo vengo aquí, yo vengo aquí para cantar, para cantar la rumba de la rumba de mi adoración, mi adoración. Luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón. Y luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón, mi corazón. Yo vengo aquí, yo la rumba de la rumba de mi adoración, mi adoración. Yo vengo aquí para cantar la rumba de la rumba de mi adoración, mi adoración. Quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón, y luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón, China, tú me has robado, tú me has robado el corazón. China, tú me has robado el corazón. China, tú me has robado el corazón.
China, cuando te veo el corazón me hace currucutú.
China, tú me has robado el corazón.
China, tú eres la causa, la única causa de mi dolor.
China, tú me has robado el corazón.
Les infos du Proton.